pour la jouer, la dernière possession.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 19h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 13 avril 2022. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi a présenté sa démission en vue de former un gouvernement moins pléthorique. Au Niger, 7 policiers ont été tués et 16 blessés hier lors d'une attaque contre un poste de police à la frontière avec le Burkina Faso. Nouvelle violence dans le centre du Nigeria. 24 personnes ont été tuées par des hommes armés. En Afrique du Sud, le bilan des inondations est monté à 306 morts. Démission de l'envoyé spécial américain pour la Corne de l'Afrique, David Satterfield, 3 mois après sa nomination. Et l'homme qui a ouvert le feu dans le métro de New York hier a été arrêté. L'attaque a fait 23 blessés. Après le journal, ce sera la Minute Éco et les sports. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi a présenté sa démission et celle de son gouvernement au président Alassane Ouattara à l'ouverture d'un conseil des ministres ce mercredi. Les détails avec Delphine Bowies, notre correspondante à Abidjan.
Démission du Premier ministre ivoirien Jérôme Patrick Hachi. Dans son discours, il a remercié le chef de l'État pour l'avoir nommé Premier ministre par intérim le 8 mars 2021, puis confirmé à ce poste le 26 mars 2021. Il a clairement exprimé sa volonté d'aller à un réaménagement du gouvernement. Cette décision n'est pas une surprise, car le président ivoirien Alassane Ouattara avait déjà fait part de son projet de constituer un nouveau gouvernement. Il a aussitôt accepté et a exprimé sa volonté de constituer une équipe plus restreinte compte tenu de la conjoncture économique qui commande de réduire le train de vie de l'État. Le président Ouattara précise qu'un nouveau premier ministre sera nommé la semaine prochaine. Delphine Bowies, Abidjan, VOA Afrique.
Au Niger, 7 policiers ont été tués et 16 blessés hier après-midi lors d'une nouvelle attaque de djihadistes présumés contre le poste frontière de Pétélkol à la frontière avec le Burkina Faso. Il s'agit d'un bilan provisoire selon un responsable municipal de la région qui s'est rendu sur les lieux ce mercredi. L'attaque a été menée par des hommes lourdement armés en grand nombre, a indiqué de son côté un élu local. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré à Bamako que les Européens seraient dans l'impossibilité de coopérer avec les forces maliennes tant que celles-ci collaboraient avec les Russes. Après une rencontre avec le colonel Assimi Goïta, Madame Baerbock a exprimé devant la presse la crainte de crimes de guerre contre les populations civiles. Son homologue malien Abdoulaye Diop a demandé en sa présence qu'on se garde de tout amalgame, soulignant la nécessité de respecter les choix de son pays. Le Mali souhaite travailler avec l'ensemble de ses partenaires, y compris l'Allemagne, la Russie, la Chine et les États-Unis, a-t-il déclaré. Nous entendrons le ministre dans une interview de VOA Afrique en seconde partie du Monde aujourd'hui. Nouvelle violence au Nigeria, 24 personnes ont été tuées par des hommes armés dans l'état de Benue, dans le centre du pays. Claire Moragibour nous en dit plus.
Des éleveurs peuls présumés ont envahi et tué 8 personnes à Mda Douane dans la zone de Gouma et 16 autres à Tiortiou dans la zone de Tarka, a affirmé le porte-parole des autorités locales, Nathaniel Ikiour. Des dizaines d'autres personnes ont été blessées et sont soignées dans un hôpital. La police locale a seulement confirmé l'attaque menée à Tiortiou en donnant un bilan inférieur de 9 personnes tuées. Dimanche, une centaine de personnes ont été tuées par des hommes armés dans d'autres attaques menées dans l'état du plateau dans le centre. Alors que le gouvernement est critiqué pour son incapacité à enrayer ces violences quasi quotidiennes, le président Muhammadu Buhari a dénoncé hier des massacres odieux, appelant à une réponse sans pitié contre les assaillants. Le gouverneur de l'état de Benue, Samuel Ortom, a quant à lui appelé la population à se défendre par elle-même. « C'est une affaire de survie », a-t-il déclaré.
5 Égyptiens, 4 Français et une Belge ont été tués ce mercredi dans un accident de car à Assoua dans le sud de l'Égypte. Selon le gouvernorat, 14 autres touristes ont été blessés, 8 Français et 6 Belges. Et tous sont dans un état stable après avoir été hospitalisés. Le car les transportait ce matin. Il est entré en collision avec un pick-up sur la route menant aux deux temples d'Abou Simbel. En Afrique du Sud, le bilan des inondations est montée à 306 morts. Ces inondations dévastatrices constituent une catastrophe aux proportions énormes, a déclaré le président Cyril Ramaphosa en déplacement à Durban, épicentre des intempéries. 259 personnes ont été tuées selon un dernier bilan. 306 morts maintenant, hein, c'est le dernier bilan en réalité. Selon le bureau de gestion des catastrophes de la province du KwaZulu-Natal, les autorités locales ont dit faire face à un afflux de corps dans les morgues. L'envoyé spécial des États-Unis pour la compte de l'Afrique a démissionné de son poste. David Satterfield quitte ses fonctions au moment où la région traverse une grave crise politique et humanitaire. Jean-Roger Bion nous en dit plus.
David Satterfield a démissionné 3 mois seulement après sa nomination. Il avait remplacé à ce poste le diplomate Jeffrey Feltman, qui lui aussi a occupé cette fonction pendant moins d'un an. Le magazine américain Foreign Policy a suggéré que son adjoint Peyton Knopf assurerait son intérim. Les raisons de la démission de l'émissaire américain dans la Corne de l'Afrique restent pour le moment inconnues. M. Satterfield part après avoir négocié un accord de paix entre le gouvernement éthiopien et les forces du Front de libération du peuple du Tigré pour mettre fin à un conflit qui a commencé fin 2020 et qui a dégénéré depuis en une guerre civile qui a fait 2 millions de déplacés internes. Amnesty International et Human Rights Watch accusent Addis Abeba d'avoir usé de violence à l'égard de civils dans la région de l'Amara pour créer le chaos et empêcher l'aide humanitaire. Le Soudan voisin de l'Éthiopie est également plongé dans la tourmente depuis le coup d'État du 25 octobre qui a renversé le gouvernement de transition civilo-militaire qui avait remplacé le régime d'Omar el-Béchir en avril 2019.
37 ONG congolaises ont appelé à la fin de la répression et au respect des droits humains dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, sous état de siège depuis près d'un an. Elles se disent très inquiètes de la dégradation de la situation et des massacres continus dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Dans une lettre ouverte au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, actuellement en visite dans l'Est avec plusieurs ministres pour une évaluation de l'état de siège en vigueur depuis le 6 mai 2021. L'insurrection djihadiste dans le nord du Mozambique a été déstabilisée par les troupes régionales qui la combattent depuis l'année dernière, a déclaré le chef des armées sud-africains à Pretoria. Le Rwanda et les pays voisins d'Afrique australe ont déployé plus de 3000 soldats dans la province du Cabo Delgado en proie à des violences djihadistes qui ont fait plus de 3700 morts et 820 000 déplacés depuis 2017.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Kremlin a jugé ce mercredi inacceptable que le président américain Joe Biden accuse son homologue russe Vladimir Poutine de génocide en Ukraine. Le point avec Jacques Aristide.
Le président Biden a déclaré que les preuves de choses horribles qu'ont faites les Russes en Ukraine s'accumulent. Le Monde, a-t-il ajouté, en découvrirait davantage sur la dévastation avant de parler pour la première fois de génocide. Un terme surtout employé jusqu'ici par son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Moscou rejette de telles accusations. Notre désaccord est catégorique et nous considérons que de telles tentatives de déformer la réalité sont inacceptables, d'autant plus qu'elles viennent du président des États-Unis, pays dont les agissements dans l'histoire récente sont bien connus, a commenté Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin. Lors d'une visite à Boutcha aujourd'hui, le procureur de la Cour pénale internationale, le Britannique Karim Khan, a décrit l'Ukraine comme une scène de crime. Le président russe Vladimir Poutine a qualifié les accusations d'exaction à Boutcha de fausses. Sur le terrain, les troupes russes poursuivent leur offensive pour faire tomber Mariupol, ville portuaire assiégée et bombardée depuis plus de 40 jours.
L'homme soupçonné d'avoir tiré dans le métro de New York hier matin à l'heure de pointe, faisant 23 blessés dont 10 par balle, a été arrêté ce mercredi à Manhattan, a indiqué la police. Il sera poursuivi en vertu d'une loi concernant les attaques terroristes et autres violences contre des transports en commun, a annoncé un procureur fédéral. Il comparaîtra devant un tribunal fédéral de Brooklyn et en cas de condamnation encourra une peine de prison à perpétuité, a déclaré le procureur Breon Peace. Lors d'une conférence de presse sur place, les enquêteurs ont trouvé une arme de poing, 3 chargeurs et une clé de camionnette louée et abandonnée dans Brooklyn. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
Le Niger va recevoir de la Banque africaine de développement 127 millions de dollars pour désenclaver des terres agricoles et pastorales dans l'Est, le long de sa frontière avec le Nigeria. C'est l'un des projets prioritaires dans le cadre de la stratégie nationale des transports visant à maximiser les avantages tirés des ressources et des opportunités offertes par cette région. L'enveloppe comprend un prêt de 71 millions de dollars et une subvention de 56,8 millions de dollars. L'Algérie a signé lundi un accord pour augmenter ses livraisons de gaz à l'Italie qui cherche à réduire sa dépendance de la Russie. La Sonatrach, la Société nationale des hydrocarbures, indique que l'accord avec Eni permet aux deux sociétés de fixer les niveaux des prix de vente de gaz naturel selon les conditions du marché pour l'exercice 2022-2023, conformément aux clauses contractuelles de révision des prix. Pour terminer, la Tunisie prolonge d'un an la durée des prêts au secteur du tourisme. Selon le ministre de l'Économie, Samir Sayed, le plan comprend une ligne de financement de 100 millions de dollars pour soutenir les petites entreprises touchées par la récession économique. La Tunisie espère relancer le secteur touristique, crucial pour son économie, visant à attirer 4,7 millions de visiteurs cette année.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Basketball Africa League pour commencer avec les matchs de la conférence Nil qui se disputent au Caire en Égypte. Cobra Sport du Soudan du Sud fait présentement face à BC Espoir Foukache de la RDC. Juste après, les Cape Town Tigers défieront les Camerounais du FAP. Hier, les Angolais du Petro de Luanda ont enregistré leur deuxième victoire dans cette compétition en laminant Cobra Sport du Soudan du Sud 92-56. Deuxième succès également pour le champion en titre, le Zamalek d'Égypte, vainqueur 101-97 des Sud-Africains de Cape Town Tigers. Ici, en NBA, les Brooklyn Nets, vainqueurs des Cleveland Cavaliers 115-108, en match de barrage, se sont qualifiés pour les playoffs. Favoris, Brooklyn a pu compter sur Kevin Durant et Kyrie Irving, 59 points cumulés. Soulagé de voir son équipe en playoff, le public du Barclays Center a fait montre d'une joie contenue car l'émotion était encore palpable. Après l'attaque survenue en matinée dans le métro à Brooklyn, où un homme a ouvert le feu faisant 23 blessés, une minute de silence a ainsi été observée avant le match. En playoff, les Nets défieront au premier tour les Boston Celtics. À l'ouest, il y avait de l'électricité dans l'air entre Wolves et Clippers et c'est Minnesota qui a eu le dernier mot. Au prix d'un money time de feu, score final 109-104. En playoff, les Timberwolves défieront au premier tour les Memphis Grizzlies. Toujours en barrage à suivre ce soir, Atlanta-Charlotte, la Nouvelle-Orléans, fait face à San Antonio. Les playoffs débutent samedi. Football, match retour des quarts de finale en Ligue des Champions. Ce soir en Europe, Liverpool des Africains Sadio Mané, Mohamed Salah, Naby Keita et Joël Matip, vainqueurs 3-1 de Benfica à l'aller, fait figure de favori pour atteindre les demi-finales. Cet objectif est partagé par Manchester City en danger face à l'Atlético au stade Wanda Metropolitano de Madrid. Les Citizens l'ont emporté 1-0 à l'aller. Hier, avec un but en prolongation, Karim Benzema a qualifié le Real Madrid pour les demi-finales au terme d'un scénario épique contre Chelsea qui a touché sa remontada du doigt en menant 3-0 en Espagne avant de flancher 3-2. Le Bayern Munich a été éliminé par Villarreal victorieuse 1-0 à l'aller et formidable d'abnégation. pour arracher un nul synonyme de qualification 1-1 à l'Alliance Aruna avec un but tardif du Nigérian Samuel Chukwueze à la 88e minute.
Merci beaucoup Yakuba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. L'Union européenne a envisagé cette semaine de mettre fin à la formation des soldats maliens. D'autre part, Bamako et la CDAO ne parviennent toujours pas à trouver un terrain d'entente sur la durée de la transition au Mali. Sur cette question, Modibo Dembélé a joint Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale au Mali.
Les négociations se sont poursuivies le mois dernier à la suite d'une délégation qui est venue ici, qui a fait des propositions entre 12 et 16 mois, et même 12 mois, ce qui nous a surpris d'ailleurs. Et le dernier sommet à Accra avait suivi, a fait des propositions de 12 à 16 mois. Mais au départ de la délégation de la CDAO ici, il avait été indiqué par le gouvernement que le minimum pour le gouvernement, le temps nécessaire pour la sécurisation du pays et aussi pour accomplir un minimum de réformes dans des conditions idéales pour préparer les élections serait de 24 mois. Et nous pensons en tout cas que ces 24 mois constituent une concession importante du gouvernement qui a fait des compromis nécessaires à partir d'une période qui était beaucoup plus longue. Et nous pensons aussi qu'il faut éviter de mettre une camisole de force sur le Mali parce que je crois que le temps, la durée de la transition devrait en tout cas prendre en charge les besoins que le gouvernement et les Maliens aiment exprimer où on estime que nous pouvons nous engager seulement sur la base de ces 24 mois. Mais nous continuons néanmoins à garder la porte ouverte pour les discussions. Nous espérons que la CDAO fera preuve de plus de compréhension pour pouvoir prendre en charge ses préoccupations.
Pourquoi vous pensez que les 16 mois ne suffisent-ils pas?
Non, c'est à la lumière de l'évaluation du temps qui est nécessaire parce que les périodes en question, en tout cas pour ce qui concerne ce que le gouvernement a proposé, est basé sur un chronogramme détaillé d'efforts en cours en matière de sécurisation du pays, mais aussi même l'organe unique à sa mise en place et son opérationnalisation requiert un certain temps pour pouvoir le faire et il y a aussi différents scrutins. Donc il y a un certain nombre de choses à faire pour pouvoir préparer sérieusement des lois électorales et autres, voire mettre en œuvre. Nous avons, à l'issue de ça, estimé que le minimum de temps nécessaire sera ça. Si sur le terrain il se révèle que nous avons besoin de moins de temps, c'est tant mieux, même travaillons sur cette base.
Cela arrive en un moment où l'Union européenne a décidé de mettre fin à la formation des troupes au Mali. Quelle est votre réaction par rapport à cette décision?
Chaque pays est souverain, chaque organisation est souveraine en matière de décision. Ces organisations s'assument par rapport à la situation au Mali, mais je crois que cela ne saurait divertir le Mali des choix qui ont été opérés, de diversifier nos partenaires. Et nous sommes conscients que nous travaillons dans un contexte géopolitique extrêmement difficile avec la guerre en Ukraine qui vient aussi interférer par rapport à certains choix. Mais nous avons eu des discussions avec nos amis de l'Union européenne. Nous avons reçu des délégations ici. Et nous avons aussi donné un certain nombre de garanties. Et en tout cas, nous avons exprimé notre volonté de continuer à travailler avec eux. Bon, s'ils estiment qu'au finish, que ce qui a été présenté n'est pas suffisant, et ils décident de réduire, parce que je ne pense pas que ce soit une fermeture complète de la mission, mais je vais les laisser eux-mêmes développer le contenu de la décision qu'ils ont prise. Mais quel que soit le chemin retenu, nous nous sommes disposés à travailler avec les uns et les autres, et nous sommes décidés aussi à maintenir des choix stratégiques qui ont été opérés par le Mali, notamment en travaillant avec la Russie, et les résultats sont aujourd'hui probants sur le terrain.
Abdoulaye Diop est ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, de nombreuses personnes ont dû fuir leur village après les affrontements entre les forces armées et les rebelles du M23. Les populations des groupements de Jomba et Bweza qui se sont réfugiées vers d'autres lieux se disent délaissées. Notre correspondant Zanem Neti Zaidi a rendu visite à des personnes déplacées dans cette région.
Dans les couloirs de l'école primaire de Rougabo à Rutshuru, Iragou Abraham, déplacé de Djomba, se promène avec sa fille de 2 ans dans les mains. Heureux de l'avoir retrouvée avec sa mère 2 jours après la panique qui a suivi les combats.
En fait, je venais du champ. Quand j'arrivais à la maison, bon, je me suis retrouvé vraiment étonné quand les gens prenaient fuite. Bon, nous avons fui séparément de la famille. En arrivant ici, bon, j'ai essayé d'appeler les gens de ma famille à leur informer que je me suis retrouvé ici à Rutshuru. Ils m'ont rencontré ici.
Certes, il a retrouvé sa famille, mais il a toujours du mal à les nourrir ou même trouver de quoi couvrir ses enfants la nuit parce qu'il fait froid dans la salle des classes qui leur sert d'abri.
Nous vivons une vie pénible parce qu'on a fui sans rien. Nous mangeons difficilement quand les gens bon, essayent quand même d'aller commander dans des quartiers différents. Dormir, nous dormons mal. Sans matelas, sans zininate, sans aucun bâche. Vraiment, nous dormons tellement mal.
Pour les responsables des familles d'accueil et des Rutshuru, la situation économique se complique également à cause de ces personnes déplacées, d'où l'appel à l'aide du gouvernement congolais. Madame Sifa Bizimungu a accueilli 9 personnes dans sa maison.
J'habite le quartier Foucault 1. J'ai accueilli une famille composée de parents et de 7 enfants. Nous souffrons tous ensemble ici car nous sommes aussi 9 dans la famille. Même pour manger, nous devons aller fouiller avec peine dans nos champs. Bref, la vie devient très difficile. Nous demandons aux autorités de venir d'urgence en aide à ces personnes déplacées et de voir comment rétablir la paix dans leur environnement.
La coordination des organisations humanitaires du territoire des Rutshuru a rapidement commencé à enregistrer les ménages de cette école primaire afin de planifier la réponse, a déclaré Clément Taboba, coordinateur de cette structure.
Nous sommes en train de faire l'enregistrement des personnes déplacées internes qui sont venues de Djomba, Pweza et Kisigari pour qu'on connaisse les chiffres exacts des personnes déplacées afin de planifier la réponse.
La société civile des Rutshuru, quant à elle, demande à ces organisations humanitaires de se pencher sur les besoins prioritaires de ces personnes déplacées. Samson Rukira est le rapporteur de cette structure citoyenne.
Comme toute personne humaine, le premier besoin, c'est tout d'abord, quand il y a les vivres, il y a les médicaments. Je pense que ça peut aider avant que les autres besoins ne soient répondus.
Il faut noter que les affrontements ont cessé le week-end dernier. Le M23 a signé et rendu public un communiqué, retirant ses combattants de toutes les positions qu'ils avaient prises, mais les déplacés hésitent encore à rentrer chez eux, craignant une reprise des hostilités. Zanem Netizaidi, des retours de Rutshuru pour VOA Afrique.
VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Pour les musulmans du monde entier, cette année marque le 3e Ramadan en période de pandémie. Aux États-Unis, c'est le premier où la prière et les repas peuvent avoir lieu sans restrictions strictes liées au coronavirus. Younis Salim de la Voix de l'Amérique a visité une mosquée communautaire dans la banlieue de Washington. Récit de Claire Morin-Gibourg.
Le Ramadan a toujours été une fête communautaire pour les musulmans. Cette année, pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid, les fidèles peuvent réellement se rassembler pour la prière et la rupture du jeûne, l'iftar, au coucher du soleil. Ici, au centre imam, créé par la diaspora indonésienne à Silver Spring dans le Maryland, pour la première fois en 3 ans, les organisateurs ont dû vérifier s'ils avaient assez de nourriture et de boissons pour les fidèles musulmans. Ita Raymond coordonne l'iftar, ou la rupture du jeûne, au centre imam.
Le plus difficile est de deviner combien de personnes seront là. Les 2 dernières années, nous avions un nombre de personnes limité pouvant venir en raison à la pandémie. Maintenant, tout le monde est bienvenu pour l'iftar et les prières des Tarawih. Je suis tellement émue.
Contrairement aux années antérieures, où l'iftar suivi de prières avait lieu tout au long du mois du Ramadan, le centre imam ne tient l'iftar que les vendredis, samedis et dimanches. Seule la prière a lieu tous les soirs. C'est suffisant pour de nombreux fidèles après des années à rompre le jeûne ensemble en ligne. Nabil Sianourbi et Ezra Taouid sont 2 membres de la congrégation.
C'est réconfortant de voir tout le monde, de rompre le jeûne ensemble.
Oui, c'est un vrai plaisir d'être ici, parce que l'année dernière, il n'y avait pas de prière du crépuscule, parce qu'il y avait le Covid et tout le reste.
Bien que fondée par des Indonésiens dans la région de Washington DC, les activités du Ramadan du centre Imam sont ouvertes à tous ceux qui veulent participer. Souher, une musulmane syrienne américaine, goûte pour la première fois à la cuisine indonésienne.
Beaucoup de plats sont à la base de riz et avec de la viande, donc c'est comme la maison.
Le Ramadan est aussi une période d'études religieuses et de réflexion. Pour ces activités, la mosquée utilise toujours des méthodes d'apprentissage en ligne développées pendant la pandémie, comme l'explique Nour Fajar au centre Imam.
C'est une version hybride maintenant. En semaine, il est difficile d'avoir des volontaires car ils travaillent. Et les aires de bureau sont si proches des aires de liftar. Nous avons donc poursuivi les activités en ligne.
La plupart des Indonésiens suivent la décision du Conseil islamique d'Amérique du Nord et ont commencé à jeûner le 2 avril. L'Aïd al-Fitr, qui célèbre la fin du mois du Ramadan, est prévu le 1er mai.
Depuis plus d'un mois, le président américain Joe Biden met en cause son homologue russe Vladimir Poutine en guerre contre l'Ukraine pour la hausse généralisée des prix aux États-Unis. Mais des analystes ne partagent pas entièrement cet avis. Un reportage d'Anita Powell, relaté par Jacques Aristide.
Tout augmente partout dans le monde. Depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a près de deux mois, du carburant aux engrais, en passant par la nourriture, les prix grimpent dans des pays éloignés du conflit, tels que le Maroc, le Brésil et l'Inde. Le président américain Joe Biden l'explique par le truchement de ce slogan, la hausse des prix de Poutine.
Je fais tout ce qui est en mon pouvoir par décret pour faire baisser les prix et faire face à la hausse des prix de Poutine. En fait, nous avons déjà fait des progrès depuis la collecte des données liées à l'inflation en mars. Le budget de votre famille, votre capacité de faire votre plein d'essence, rien de tout cela ne devrait dépendre du fait qu'un dictateur déclare la guerre et commet un génocide à l'autre bout du monde.
Lors d'une visite dans l'Iowa mardi, le locataire de la Maison-Blanche a fait part d'une initiative qui a pour objectif d'étendre l'utilisation d'un mélange d'essence à base d'éthanol afin de rendre les prix du carburant plus abordables. Mais un tel mélange est susceptible d'être plus polluant. D'après l'ONU, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a fait grimper les prix des denrées alimentaires aux quatre coins du globe. Mais des économistes invoquent d'autres raisons également, telles que la hausse des prix des matières premières, la lutte inadéquate contre l'inflation et les perturbations au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Pour certains analystes, Vladimir Poutine n'est pas l'unique coupable. E.J. Anthony est chercheur au think tank conservateur Heritage Foundation.
This happened long before Putin's invasion of Ukraine. So the administration went from saying there is no inflation to then saying, well, there's inflation.
Cela s'est produit bien avant l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Dans un premier temps, l'administration disait qu'il n'y avait pas d'inflation avant d'avouer qu'elle était transitoire. Ensuite, l'inflation a été reconnue comme un problème, mais elle était bonne. Aujourd'hui, nouveau scénario. L'inflation est mauvaise, mais ce n'est pas de leur faute. C'est la faute de Poutine.
That is a recent phenomenon, and it does not explain the run-up in prices, particularly energy prices, from before the invasion.
D'autres, en revanche, sont d'avis qu'une grande part de responsabilité doit être attribuée à Vladimir Poutine. William Wrench, du Centre d'études stratégiques et internationales.
S'il n'y avait pas de guerre, je pense que les prix auraient atteint leur plus fort avant de commencer à baisser. Avec la guerre, oui, c'est une hausse des prix de Poutine. Je pense qu'il n'y a aucun doute à ce sujet. Comme je l'ai déjà dit, il n'a pas déclenché la flambée des prix. Tout cela a commencé bien avant la guerre. Mais il a tout aggravé et il mérite qu'on lui en reporte la faute.
L'économie russe a également été durement touchée par les multiples sanctions imposées par les États-Unis et les alliés de l'OTAN.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
C'est la fin de cette édition. À la technique, c'était Georges Léonard Sagnot. À la présentation, Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voaafrique.com. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.